Sur Radio Galaxy, on va parler de la prochaine conférence organisée par la Pub en Vol. Ce sera le mercredi 26 février à Carbonne. Et là, c'est un sujet d'actualité puisqu'on va parler de l'intelligence artificielle générative au service de la création artistique. Bonjour Paul Dubois.
Bonjour.
Vous êtes jeune docteur en intelligence artificielle. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est quoi l'intelligence artificielle générative? Est-ce qu'il y a une différence avec une IA classique?
Bonjour, donc merci d'avoir accepté cet entretien. Donc effectivement, il y a une différence entre l'intelligence artificielle générative et l'informatique classique. Une intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est un programme informatique qui va apprendre de la donnée. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous utilisez un logiciel sur votre ordinateur, il y a un programmeur qui a écrit comment le programme doit se comporter. Par exemple, quand je clique sur un bouton, ça va mettre le bouton en rouge ou en bleu, etc. L'intelligence artificielle, c'est un programme qui va apprendre des données. Mmh. Et donc, à partir de ces données, on va pouvoir faire des choses qui vont être plus complexes que si on avait écrit manuellement qu'est-ce qu'il faut faire dans chacun des cas.
Parce que je crois qu'il existe plusieurs types d'intelligence artificielle.
Effectivement, donc. Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Il y en a qui font des intelligences artificielles classiques, qui vont faire par exemple de la prédiction, qui vont dire par exemple cette image-là, c'est une image d'un chien, c'est une image d'un chat, etc. Récemment, il y a un nouveau type d'intelligence artificielle qui a explosé, qui est l'intelligence artificielle générative. Et ce sont en fait certaines intelligences artificielles qui vont être capables de non pas faire des prédictions sur quelque chose, mais bien générer une nouvelle donnée. Donc on peut générer par exemple du texte avec des modèles type GPT comme ChatGPT, Mistral, etc. Et on a aussi des IA qui sont capables de générer des images comme Midjourney, DALL-E, etc. Et récemment, on a vu aussi des nouvelles IA génératives qui sont capables de générer du son ou de la voix.
Et c'est vrai qu'elle nous fascine de plus en plus et elle a tendance à transformer notre monde digital avec les bons comme les mauvais côtés que ça implique.
Tout à fait, oui. Alors, il y a plusieurs choses qui sont très bien par rapport aux IA. Ça permet, par exemple, d'aller beaucoup plus vite, donc d'augmenter la productivité. Et donc, typiquement, en médecine, ça nous permet de traiter plus de patients ou de passer plus de temps avec les patients au lieu de passer plus de temps à faire les traitements, à designer les traitements. Mmh. Mais il y a aussi des mauvais côtés. Typiquement, on a des problèmes aujourd'hui de privacy, donc de fuite des données, c'est-à-dire qu'est-ce que les grosses entreprises vont faire de vos données personnelles. On a aussi des problèmes sur le copyright. Typiquement, si vous êtes un artiste, est-ce que vous voulez ou non que vos œuvres soient utilisées pour entraîner des modèles d'IA? Et aujourd'hui, ça, c'est des problèmes qui vont être discutés notamment à la conférence sur l'IA à Paris qui se déroule en ce moment. Et c'est des problèmes de société qu'il va falloir qu'on résoudre dans les prochaines années.
Dans cette conférence, vous allez nous proposer une approche qui associe l'intelligence artificielle générative et la créativité artistique. Et quel est l'impact de cette technologie sur cette créativité artistique?
Alors aujourd'hui, les artistes vont pouvoir être aidés de l'IA pour créer plus rapidement ou alors pour trouver ça peut être aussi des sources d'inspiration. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait se dire qu'un artiste qui n'a pas, qui est, je sais pas, par exemple, dessinateur pour des BD ou autre, il va se contenter de faire le plan principal, c'est-à-dire les personnages, et puis pour tout ce qui est de l'arrière-plan, il va pouvoir peut-être le générer par une IA en disant voilà la scène et là j'ai pas envie de faire les 50 maisons qu'il y a derrière. Je vais demander à une IA de faire un arrière-plan qui ressemble à des maisons de Paris ou de New York ou j'en sais rien.
Ok, donc c'est comme ça qu'elle va pouvoir aider le processus de ses créations.
Tout à fait.
Tout ça, c'est bien beau, c'est le bon côté de la technologie, mais est-ce qu'on peut imaginer que l'IA remplace ou affecte dans quelques années, si ce n'est pas déjà fait, certains artistes ou certains êtres humains?
Alors, certains artistes, je pense que ça va être difficile parce que si vous utilisez des modèles d'IA, vous allez pouvoir créer des œuvres, ça oui, mais vous ne pourrez jamais créer un nouveau type d'œuvre. Vous pouvez, par exemple, Picasso a inventé le cubisme, il est impossible pour une IA d'inventer le cubisme. Si elle a vu des œuvres dans ce style-là, elle sera capable de créer de nouvelles œuvres dans le style du cubisme, mais elle ne sera pas capable de créer un nouveau type d'œuvre. Mmh. Là-dessus, les artistes sont à la fois protégés et non protégés. C'est-à-dire qu'il y a la partie vraiment créative de l'artiste qui sera toujours dans les mains de l'artiste. Par contre, leur métier sera transformé du fait que aujourd'hui, ils pourront créer des œuvres qui ressemblent à des œuvres précédemment créées de façon beaucoup plus rapide et facile. Il y a d'autres métiers qui seront affectés. Et typiquement, en fait, on va gagner en productivité. Donc, j'ai travaillé lors de ma thèse dans le médical. Et en fait, aujourd'hui, les médecins utilisent l'IA de façon vraiment abondante. Et ça permet en fait aux médecins de traiter plus de patients et de passer plus de temps avec les patients pour leur expliquer mieux le traitement. C'est-à-dire qu'avant, ils passaient beaucoup de temps dans la salle des machines à paramétrer les machines. Et aujourd'hui, en fait, ils sont capables de se libérer du temps sur cette tâche grâce à l'IA qui leur fait gagner du temps et donc de pouvoir passer plus de temps avec les patients. Et donc, ça humanise en fait la relation qu'ils ont avec leurs patients.
Alors, tout le monde peut utiliser cette IA, en tout cas dans sa forme basique. Et je pense que ça peut être une source d'inquiétude. On pourrait potentiellement rencontrer des débordements ou des fausses informations. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation, Paul Dubois.
Effectivement, la réglementation, c'est un gros problème. Alors aujourd'hui, il y a une jurisprudence qui a été mise en place par la plupart des grandes entreprises, qui est que quand vous parlez à un robot, normalement, vous êtes au courant que vous parlez à un robot. C'est-à-dire que jamais une IA va se faire passer pour un véritable humain. Il y aura toujours un message disant « attention, je suis une IA », etc. etc. Mmh. Donc là-dessus, il n'y a pas de réglementation, mais disons que c'est ce qui est appliqué par la plupart des entreprises qui développent de l'IA. Et effectivement, un des sujets qui va être discuté, qui est discuté en ce moment à Paris lors du sommet sur l'IA, c'est la question des réglementations et des régulations.
Dans tous les cas, on sait qu'elle est présente dans nos vies, sur les réseaux, donc plutôt que de la repousser, il faut apprendre à vivre avec et s'en informer, c'est toujours bien.
Effectivement, en fait, c'est pour ça que je fais la conférence le 26 février à Pupenvol. Le but, c'est d'informer le plus de personnes possible, en fait, de comment l'intelligence artificielle fonctionne. Et de mon point de vue, en sachant mieux comment ces outils fonctionnent, on sera mieux capable de les comprendre et de les utiliser à bon escient et de ne pas en avoir peur.
Alors, l'intelligence artificielle n'a pas que des mauvais côtés, on l'a vu, puisque vous nous en avez parlé, vous travaillez sur l'automatisation du processus de planification des traitements en radiothérapie, qui va permettre une avancée cruciale dans la lutte contre le cancer. Je trouve ça hyper intéressant, preuve que les intelligences artificielles ne cessent d'évoluer depuis ces dernières années. Quelle évolution pourrait-on prévoir dans les années à venir? Est-ce que l'intelligence artificielle va continuer de s'améliorer?
Alors aujourd'hui, il y a une des limites de l'IA, c'est les ressources. En fait, pour faire des prédictions, pour générer des images, pour faire de la génération de texte, les IA font énormément de calculs. Et ces calculs aujourd'hui sont faits sur des cartes graphiques, c'est-à-dire des processeurs très puissants qui vont pouvoir être capables de faire beaucoup de calculs en très peu de temps. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire de l'IA efficace. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les processeurs qu'on utilise sont vraiment à la limite de ce qu'il est possible de faire physiquement. C'est-à-dire que les ordinateurs sont faits de transistors, sont comme des interrupteurs. Et aujourd'hui, la taille des transistors est limitée par la physique quantique. Mmh. Un des facteurs limitants de l'IA aujourd'hui, c'est la capacité de calcul que l'on a. Et cette capacité de calcul, il est probable que dans les années à venir, elle ne grandisse plus aussi vite qu'auparavant. Et donc, à partir du moment où les capacités de calcul de nos ordinateurs ne grandissent plus, les modèles d'IA devront évoluer pour être meilleurs sans être plus gourmands en ressources. Et ça, c'est pas sûr que les chercheurs arrivent à le faire.
Paul Dubois, je rappelle que vous êtes docteur en intelligence artificielle et vous êtes le prochain conférencier de la Pupenvol au sujet de l'intelligence artificielle générative au service de la création artistique. Rendez-vous le mercredi 26 février à 20h. C'est à la salle du Bois de Castres de Carbonne avec une entrée libre et gratuite. Merci beaucoup, Paul Dubois.
Merci à vous.
Et une très bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Radio Galaxy, c'est la radio que j'écoute.